Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous. Anastasie Tudiache avec vous et ravie de l'être. Bienvenue dans le dialogue des religions. Ce soir, nous allons parler d'un événement survenu aujourd'hui au Sénégal. Un marabout sénégalais, lui aussi, Cheikh Mbaké, avait fustigé dans une vidéo publiée sur postée sur Internet les religieux sénégalais. Il leur a reproché d'avoir un rapport commercial à la religion. Il s'en est pris aussi à une confrérie, plus particulièrement une confrérie religieuse, celle des Mourides, lui reprochant de s'être détourné des enseignements de son fondateur, Cheikh Amadou Bamba. Cheikh Mbaké a subi des pressions, s'est excusé pour ses propos, par vidéo également. Pas suffisant, visiblement, pour la justice sénégalaise, qui l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis. Alors comment comprendre cette décision de la justice sénégalaise? Un chercheur est avec nous ce soir pour nous aider à bien saisir le contexte sénégalais, où les confréries ont une forte influence sur la vie de la société, qu'elle soit politique ou économique. Bonsoir, docteur Cheikh Gueye.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'ENDA Tiers-Monde. L'ENDA, ça s'écrit E-N comme Norbert D-A. C'est une ONG spécialisée dans les questions de développement et d'environnement. Vous êtes également l'auteur d'une thèse de doctorat soutenue à Strasbourg sur Touba, la ville sainte Mouride. Toute première question, qu'est-ce qu'une confrérie?
Merci beaucoup de l'invitation. Une confrérie, c'est un regroupement de personnes qui ont choisi une voie spirituelle dans l'islam particulière, souvent sous la tutelle d'un fondateur de la confrérie qui a trouvé cette voie spirituelle et donc qui regroupe un certain nombre de disciples qui suivent cette voie et qui représentent, pour ce qui concerne le Sénégal, l'essentiel des musulmans sénégalais.
Vous avez précédé ma question. J'allais vous demander combien il y en avait au Sénégal à peu près.
Il y en a 5 à peu près au Sénégal qui ont toutes des origines différentes. Mm-hmm.
Et quelles sont les plus influentes?
La Hadria, qui est la première apparue chez nous, son fondateur vient de l'Irak d'aujourd'hui, mm-hmm, et a été créé depuis le 10e siècle. La deuxième, c'est peut-être la Tijania, chronologiquement parlant, donc qui est issue aussi d'un cheikh qui est né en Algérie, qui s'est établi au Maroc au 16e siècle. Mm-hmm. Et dont les disciples continuent aujourd'hui au Sénégal à développer une confrérie autour de ces enseignements. Et la confrérie des Mourides, elle, a la particularité d'avoir été fondée au Sénégal,
oui,
par le Cheikh Amadou Bamba, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure.
D'accord. Alors quelles sont les particularités des Mourides, de la confrérie Mouride, à part le fait d'avoir été créé par un Sénégalais?
Toutes les confréries soufies et le soufisme, il faut aussi comprendre ce que c'est.
Bien sûr.
C'est une voie assez particulière dans l'islam qui cherche à redonner toute la dimension spirituelle de la foi. Au-delà du culte et de la foi pure, donc la confrérie est plutôt, le soufisme est plutôt quelque chose qui est plutôt ésotérique, quoi, et donc qui essaie également de mettre l'accent sur l'aspect spirituel au-delà du culte. Et donc la confrérie Mouride est une de ces confréries. Elle est née à la fin du 19e siècle, fondée par Cheikh Amadou Bamba, lui-même né en 1853. Donc, créée un peu dans cette période de pacification coloniale et de crise des sociétés des sociétés de l'époque avec la colonisation. Et donc, cette confrérie a redonné, et les autres confréries ont redonné un sens aux populations sénégalaises, un nouveau sens, un nouvel esprit tutélaire, donc qui jusqu'à aujourd'hui constitue des agendas particuliers liés à un vrai projet de société qu'ils veulent mettre
alors
en place.
Alors moi, ce que je me suis laissé dire, c'est que les mourides ont pour spécialité de lier foi et travail. La notion du travail est extrêmement importante pour eux.
C'est une des particularités des mourides, effectivement. C'est un soufisme qui n'exclut pas le monde, qui veut construire son autonomie à partir aussi du travail, mais du travail licite, donc qui peut donc donner à cette confrérie les moyens de son existence et de son développement.
Docteur Chagué, d'accueillir
une image de réussite très importante de par le monde, connue pour le dynamisme de ses disciples.
Et en Europe, on les surnomme les Modou Modou, notamment en Italie. Cher Gay, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un marabout? Parce que Cheikh Mbaké est marabout, donc il est plutôt religieux, donc il se critique aussi lui-même d'une certaine manière, non?
Oui, le marabout, c'est le guide dont on a parlé, le guide religieux lui-même. Donc, en général, ce sont des personnes qui sont issues de ces confréries, qui ont donc qui sont reconnus, qui ont le disciple et qui conseillent, encadrent la vie religieuse de leurs disciples.
Ils font leur travail de guide religieux. Alors je vous propose qu'on accueille des auditeurs. Ils sont nombreux au standard de la VOA Afrique. Bonsoir. Allô, bonsoir. Qui est là?
Bonsoir. C'est Hassan Omar Boulalé, de Djibouti.
D'accord, bonsoir monsieur. Alors, dites-nous.
Oui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, actuellement, dans l'actualité du monde, on est en train d'exploiter, si je peux oser dire, la religion. Chacun prend d'une part à sa vision et dire et penser de sa manière en disant, voilà, je pense de la religion comme ça. Certains utilisent de façon économiquement, d'autres politiquement. On en parle aujourd'hui de ce qu'on appelle le djihadisme. Mmh. Certains utilisent cette idéologie pour dire, voilà, on défend la religion de l'islam ou autre, et on veut propager cette religion par la force. Alors que pour conquérir le cœur, c'est par la douceur, c'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire parler à la personne, et discuter avec lui, avoir des arguments convaincants et faire de cette manière-là. Alors qu'aujourd'hui, on utilise cette religion, même qui est l'islam, qui est souvent aujourd'hui parlé dans l'actualité, c'est l'islam, l'islamisme, l'islam. Donc, comment peut-on faire un point où est-ce qu'on peut avoir une commission, par exemple, qui s'initie de différentes religions qui sont monothéistes, pour dire comment peut-on stopper ou arrêter ou éradiquer ces gens-là qui utilisent ou qui exploitent la religion.
Est-ce que vous avez bien compris le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrestation du cheikh? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la décision de justice est bonne, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les propos du cheikh quand il dit que les religieux utilisent la religion à des fins autres que purement d'élévation de l'âme?
Ah oui, alors lui, il a donné son point de vue.
Oui, et quel est le vôtre alors?
Alors moi, je crois qu'on peut avoir les deux options. Certains utilisent, ils exploitent, d'autres disent directement pour avoir le salut de
Mais
Dieu.
Mais est-ce que vous pensez qu'il a bien fait? Est-ce que vous pensez que c'est une attitude responsable? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est une attitude plutôt insultante?
Non, je crois que je suis intermédiaire. Je ne peux pas dire, parce que moi, je ne peux pas savoir. Dans les propositions qu'il a données, c'est qu'il a critiqué les marabouts, il était hostile par rapport à eux. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une expression, une liberté d'expression? Est-ce qu'on peut dire que c'est une atteinte à la personne? Donc, ça dépendra à la justice et de mettre en place et d'apporter à ses arguments. Mais ce qui est très important, c'est qu'il exploite aujourd'hui la religion des femmes personnelles. comment peut-on éradiquer ces gens-là?
D'accord. Votre question à partir de
généraliser.
On a bien compris. C'est comment faire en sorte que, on ne puisse pas instrumentaliser la religion. Merci beaucoup, Nassa Abdullah Omar. Vous nous appeliez depuis Djibouti. Très belle soirée à vous. Retour au standard de VOA Afrique. Nous avons un second auditeur qui s'appelle Douaou. Bonsoir. Allô. Bon, on va essayer un troisième auditeur. Il est là. Bonsoir, c'est Douaou.
Bonsoir, madame.
Je n'ai pas écorché votre nom, c'est bien Douaou.
Ah, c'est bien Douaou.
Vous soyez le bienvenu, Douaou. Alors, dites-nous.
Je suis contre ce que la justice vient de faire parce que ce que le cher a dit, c'est ce qui se passe en réalité sur le terrain.
Mmh. C'est ce que vous avez constaté? Vous êtes musulman?
Oui, je suis musulman.
D'accord.
Et je suis d'accord avec ce que le cher a dit. Quand vous êtes sur le terrain, vous constatez que ce qu'il a dit, c'est ce qui se passe en réalité.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vécu en tant que musulman qui vous fait être d'accord avec lui?
Bon, nous, on est dans des quartiers où, par rapport aux chefs, ils nous ont divisé en quelque sorte.
Mm-hmm.
Bon, beaucoup de branches, c'est les Tidjanistes, les Wahhabites, les Sunnites. Bon, quelqu'un essaie de diviser à sa manière pour en tirer le plus possible. Alors que on peut trouver des cadres où chacun, on peut se réunir, parler, trouver des mains, chacun utilise la religion à sa manière. Donc, ce que le cheikh a dit, moi, je suis d'accord avec ça.
Très bien, on a entendu. Merci, monsieur Douaou. Vous nous appeliez, vous êtes à Abidjan. Bonne soirée à vous. Est-ce qu'on a un troisième auditeur? D'abord, une petite respiration. Et ensuite, on continue dans le dialogue des religions. Travaille comme si tu ne devais jamais mourir, prie comme si tu devais mourir demain. C'est la devise des Mourides, une confrérie qui est au cœur de nos échanges aujourd'hui dans le dialogue des religions avec le docteur Guéhi qui a rédigé une thèse sur les Mourides justement. Alors, docteur Guéhi, le mouridisme est né d'un refus, si j'ai bien compris, de l'oppression coloniale. C'était une solution religieuse pacifique, mais c'était un non aussi à l'occupation française de l'époque au Sénégal, vous l'aviez dit tout à l'heure, à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il semblerait que les Mourides aient une vraie et une très forte influence sur le pouvoir.
Oui, il y a beaucoup d'études qui, depuis une trentaine d'années, ont montré des articulations fortes entre la confrérie Mouride et les pouvoirs qui se sont succédés au Sénégal. Nous, on dit même que ce sont deux pouvoirs, le pouvoir confrérique et le pouvoir temporel politique au Sénégal, qui se sont coproduits. C'est-à-dire que pendant la colonisation, ce sont ces confréries qui ont aussi beaucoup soutenu les hommes politiques sénégalais pour qu'ils soient reconnus par les populations. Donc ce rôle de relais leur est encore reconnu, de régulateur social. Mais au-delà des aspects politiques, ils sont aussi les disciples, avec cette philosophie dont vous avez parlé, ont un poids économique très important dans les espaces sénégalais, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Ils représentent une bonne part de l'économie sénégalaise et sont donc reconnus comme tels. Mmh. Ils jouent aussi un rôle très important dans l'éducation religieuse des populations, des enfants. Globalement, la confrérie elle-même a beaucoup évolué à partir des différents contextes qui l'ont vu se développer, le contexte urbain, le contexte rural, mais aussi désormais le contexte international, puisque c'est une conférence qui s'est beaucoup transnationalisée.
D'accord. Alors revenons au Sénégal. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme politique sénégalais puisse aujourd'hui réussir sans l'appui, d'une manière ou d'une autre, de la confrérie des Mourides?
C'est possible, mais il y a comme une sorte de règle tacite qui veut que véritablement tout homme politique sénégalais qui veut réussir se réclame plutôt de la confrérie Mouride, ou en tout cas essaie de gagner son soutien, puisque durant beaucoup d'élections, l'impact électoral du vote Mouride est recherché et mesuré tout le temps. Donc c'est une donnée très importante dans notre démocratie.
Très importante.
Cette notion s'appelle le legal, donc qui sont des consignes de vote qui peuvent être données par les marabouts, qui sont courus par les hommes politiques sénégalais depuis la colonisation.
Oui. Mais donc très importante, voire totalement incontournable et indispensable. Alors donc je disais, l'origine de cette confrérie est vraiment liée à l'oppression, à la résistance, à l'oppression coloniale. Et aujourd'hui que les Mourides sont proches du pouvoir, voire complètement imbriqués, les critiquer mène à la prison. Est-ce que ça n'est pas une forme d'oppression aussi, docteur Gueye?
Alors moi je pense que toujours un peu la même chose sur ces questions de religion et de liberté.
Oui.
C'est jusqu'où va la liberté d'expression? Est-ce que ça peut aller jusqu'à, remettre en question soit la foi, soit les croyances de millions de populations sans avoir un retour de bâton? C'est toujours cette question qui est posée dans les actes de terrorisme qu'on peut observer avec l'affaire Charlie Hebdo en France.
Mais revenons au Sénégal, c'est pas tant l'affaire Charlie Hebdo, moi, que c'est le fait qu'on emprisonne un religieux, un chef, un guide religieux, qui a osé critiquer une confrérie. Est-ce que ça n'est pas une forme d'excès de pouvoir de la part des Mourides?
Alors, d'abord, ce ne sont pas les Mourides qui l'ont emprisonné. Je pense que c'est sans doute... C'est l'État du Sénégal, je pense, qui a porté plainte.
Absolument, c'est le parquet sénégalais, donc l'État...
Voilà, et l'État, je pense, en le faisant, c'est aussi pour, essayer de prévenir des problèmes issus de ce genre d'attaque, ou en tout cas considérés comme des attaques par certains Mourides.
Alors vous dites que les Mourides ne l'ont pas emprisonné, mais ils ne se sont pas non plus...
Vous l'avez dit dans votre propos.
Vous dites que les Mourides ne l'ont pas emprisonné.
Les gens ont failli le lyncher.
Vous dites que les Mourides ne l'ont pas emprisonné, mais ils ne l'ont pas défendu non plus au nom de la liberté d'expression.
Comment ?
Vous dites que les Mourides ne l'ont pas emprisonné, mais ils ne l'ont pas défendu non plus au nom de la liberté d'expression. Ils ne se sont pas opposés à son emprisonnement.
Il faut être clair là-dessus. Les Mourides ne sont pas contents de chaque fois que des gens essaient de dire des choses qui vont à l'encontre de leurs croyances.
Mm-hmm.
C'est complètement normal. Et il me semble que l'État aussi, son rôle, c'est de prévenir ce genre de choses pour que l'ordre public continue à régner.
De prévenir quoi? De prévenir la critique?
Non, pas de. Je pense que même que ça soit à l'intérieur de la confrérie ou à l'extérieur,
oui,
il y a toujours des critiques, il y a des contradictions, il y a des remises en question, il y a des interprétations différentes. Ce que je pense, ce qui commence à être fréquent. Je faisais le lien avec même l'affaire les attaques de jeunes Afrique la dernière fois. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas tout à fait à l'intérieur des confréries, qui disent des choses sur elles et qui suscitent le mécontentement des disciples.
Mmh. Allons au standard de VOA Afrique où deux auditeurs voudraient s'exprimer. Bonsoir. Allô?
Allô, bonsoir. Oui, bonsoir,
bonsoir. Qui est avec nous?
C'est Kéran.
La communication est vraiment mauvaise, Diarra. On essaie de vous rappeler tout à l'heure. Alors, Bakary est avec nous. Voyons si la communication est meilleure. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Bakary. Oui, là, c'est excellent. On s'entend très bien. Soyez le bienvenu et dites-nous ce que vous inspire cette affaire.
Donc, on disait, c'est-à-dire, 1000 chemins mènent à Rome.
Oui.
Donc, les cinq doctrines, là, je crois qu'ils ont quand même des voies différentes pour atteindre à Dieu. Mais cependant, je m'en vais poser quand même quelques questions à notre invité. Est-ce que les cinq doctrines ou bien ont des points communs et des points de divergence au Sénégal? Donc, est-ce que la religion est-elle compatible à la politique? Est-ce que ces cinq doctrines ne s'immixent pas vraiment à la politique sénégalaise comme les Goussa en Afrique du Sud?
Bon, alors, la question de... Merci beaucoup pour cette question, Bakary, qui est très importante et qui convient parfaitement à la situation dont nous parlons ce soir. Docteur Gay, est-ce que la politique et la religion font bon ménage? Est-ce qu'il est bon que la religion se mêle de politique et vice-versa?
Je pense que quand on parle ici de religion, il faut comprendre que c'est effectivement des groupes qui ont une dimension religieuse très importante, mais qui constituent également des groupes, dirigés par des leaders qui ont aussi des intérêts économiques, des intérêts sociaux, des intérêts politiques. Donc, il est, impensable qu'un groupe, je pense que c'est la même chose dans tous les pays, que des groupes importants soient exclus de la gestion des pays. Donc il faut aussi
Vous dites que c'est la même chose dans tous les pays.
La plupart des confréries regroupent des millions de personnes qui s'identifient à ce groupe, qui ont des intérêts sociaux, des intérêts politiques, des intérêts.
Ah oui, mais alors vous disiez tout à l'heure.
En rapport avec ça, que les États discutent avec leurs leaders. C'est pas seulement du religieux, quoi.
Vous disiez à l'instant que c'est un peu pareil dans tous les pays. Je crois pas. Je crois au contraire que la situation du Sénégal avec les confréries est très singulière, non?
Le religieux pèse beaucoup au Sénégal, mais je pense que c'est la même chose au Brésil ou dans d'autres pays. Et il y a à chaque fois des aménagements qui sont faits dans les articulations entre l'État et les groupes religieux. Il y a autant de pratiques de la laïcité et des articulations entre l'État et les groupes religieux que de pays. Chaque pays trouve ses formules et ses équilibres.
Oui, bon,
au Sénégal, effectivement. Le religieux est très imbriqué avec le pouvoir politique, à la fois comme régulateur social, comme régulateur politique.
Oui, ça vous le disiez tout à l'heure. Docteur Gay, quand on parle de religion et de foi, la notion du pardon est extrêmement importante, quelle que soit la religion. Or, Cheikh Macky s'est excusé. Pourquoi est-ce que ces excuses n'ont pas suffi?
Et encore une fois, il faut véritablement faire le distinguo entre ce que pense la confrérie et ce que pensent des disciples de la confrérie et ce qu'en pense l'État.
Bien sûr.
Je pense que si on ne fait pas la différence, il y a une certaine confusion qui s'installe.
Mm-hmm.
La confrérie elle-même, c'est une confrérie du pardon. La philosophie de Cheikh Modou Baba même, c'est une philosophie du pardon, du dépassement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes entre la confrérie, le centre de la confrérie. Évidemment, si des disciples sont mécontents, ils ont aussi le droit, en termes de liberté d'expression, d'exprimer ce mécontentement.
Oui, mais eux ne vont pas en prison pour autant.
Ou des citoyens.
Oui, mais eux ne vont pas en prison.
Je vous dis, c'est l'État qui a pris la responsabilité de porter plainte pour sans doute aussi calmer la colère des mourides. Et aussi pour prévenir d'éventuels conflits. de violence.
Et alors, quel est le sentiment à Dakar où vous vivez? Est-ce que les gens parlent beaucoup de cette affaire? Comment est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que c'est vraiment passionné ou pas?
Franchement, c'est vous qui m'apprenez aussi, quand vous m'avez appelé tout à l'heure, que cette affaire a été jugée aujourd'hui, oui. Et qu'il y a eu même cette clémence-là. Parce que 6 mois avec sursis, c'est plutôt clément, je trouve.
6 mois donc, avec sursis pour quelqu'un qui a simplement exprimé son droit d'expression, vous trouvez que c'est clément?
Moi, je trouve que si l'État décide de porter plainte et qu'à la fin, la justice dise le libère, ne le garde pas en prison, c'est déjà une forme de clémence.
Oui, et la liberté d'expression, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez,
parce qu'il n'a pas été insultant. Il a été critique, mais pas insultant.
Je ne fais que qu'apporter mon analyse.
Bien sûr, bien sûr.
Que j'ai. Donc, je ne veux pas donner le sentiment de juger le jugement des juges. C'est pas mon rôle. Donc, moi, je veux rester sur l'analyse objective de la situation et ne pas donner le sentiment que je déjuge le juge ou pas.
Très bien. En tout cas, votre point de vue a été très clairement entendu. L'émission touche à sa fin. Bientôt, vous avez une conférence, je crois, samedi, à Dakar. Ça, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent à Dakar.
Oui, la confrérie Mouride pointe un grand pèlerinage qui se déroule chaque année.
Le Grand Magal.
Le Grand Magal, qui regroupe autour de 3 millions de personnes. Et donc, il y a...
Donc, ce sera pour samedi. Merci beaucoup. Nous allons être...